Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors nous avons ce soir dans ce studio de la rue La Salie, Manijé Nouri. Manijé, bonsoir.
Bonsoir.
Et Alem Sure Garcia. Bonsoir Alem.
Bonsoir.
Adieu. Alors vous êtes Adiou. Adiou Amik. Alors vous êtes tous les deux des grands familiers maintenant de Radio Occitanie, bien entendu, mais de également l'émission Les Poètes, puisque voilà maintenant de nombreuses années que vous venez l'un et l'autre présenter vos ouvrages, ce que tu traduis, Manijé, et ce que tu écris et ou traduis aussi également Alem. Alors ce soir, vous allez nous parler d'un événement tout à fait exceptionnel. On est là dans quelque chose d'atypique, hein, cette soirée, ce qui vous est arrivé en Iran. On va en parler dans quelques instants. On va en parler aussitôt que j'aurai fini la présentation très rapide de quelques ouvrages. Alors encore une fois, il n'est pas possible de rendre compte de l'ensemble des publications que nous recevons. Nous essayons d'en citer le maximum. En tout état de cause, beaucoup de ces publications sont répertoriées sur notre site les-poètes.fr. Alors tout d'abord, Bruno Doucet, qui fait un gros travail, Bruno Doucet, les éditions Bruno Doucet, gros travail d'édition de poésie, sera bien sûr au marché de la poésie à Paris le 10 et 11 juin, 9, 10 et 11 juin, je crois. Il y aura entre autres le poète toulousain Michel Baglin, sur un des stands de Bruno Doucet. Et j'ai choisi ce soir une des éditions. On n'a pas trop parlé de tous ces ouvrages qui ont paru sur la guerre de 14, mais la guerre de 14, elle a duré 4 ans, donc après tout, on a encore 2 ans pour en parler. Hein. C'est un ouvrage de Raphaël Jérusalmi, publié donc par Bruno Doucet, qui s'appelle « Les obus joués à pigeon-vol ». Alors, il s'agit, bien entendu, d'Apollinaire, Guillaume Apollinaire, qui a été un des rares poètes engagés pendant la guerre de 14-18, ce qui a beaucoup étonné et même suscité pas mal de suspicions à cette époque-là de la part de ses amis, Jean Cocteau, Picasso. Et Apollinaire, il faut le dire crûment, Apollinaire a vécu la guerre en poète et a aimé la guerre. Il a aimé la guerre parce qu'elle avait d'extraordinairement fascinant sur le plan de la beauté, des obus. Oui, c'est assez. Mais ça paraît absolument. Il n'y a qu'un poète pour arriver à regarder la.
C'est
la
imaginaire.
Comme ça, voilà. Les fusées éclairantes, etc. Il y a là quelque chose qui lui a paru relever de la féerie. Et donc, Raphaël Jérusalmi a fait un livre là-dessus. C'est une fiction, mais qui s'inspire bien entendu des écrits de Guillaume Apollinaire. Et de la réalité. Donc il dit en 1916, il était dans la tranchée de première ligne, parce qu'il était quand même en première ligne, Guillaume Apollinaire, au lieu dit le bois des buttes. Et le 17 mars, alors celui que l'on avait appelé, tenez-vous bien, Cointreau Whisky.
Ah, c'est clair.
Cointreau Whisky, c'est clair, oui, dit Alem. On voit quelles étaient ses affinités. Donc Guillaume Apollinaire, qui avait un nom d'ailleurs à coucher dehors, slave, donc engagé volontaire, il a reçu un éclat d'obus à la tempe, hein, ce qui est bien connu. Et donc Raphaël Jérusalmi nous entraîne dans ce livre, aux côtés du poète et de ses hommes, dans un cruel et palpitant compte à rebours, heure par heure, avant l'impact. Donc c'est les 24 heures qui précèdent l'impact de l'obus. Alors c'est tout à fait intéressant à lire, parce que ça donne véritablement une image exacte, réaliste au possible de la guerre, de sa trivialité la plus absolue. Et dans cette trivialité, on voit Apollinaire parfaitement à l'aise. Et se réfugiant quand même dans ses livres. Il continuait à recevoir le Mercure de France, à avoir des correspondances avec Jean Cocteau, etc. Il arrivait donc à mener de front, sans jeu de mots, hein, sur le front, son activité poétique et littéraire, en tout cas créatrice, et ce combat qu'il menait, alors lui, réellement, hein, puisqu'il était même officier. Voilà, donc ça s'appelle Les Obus joués à pigeon vol, aux éditions Bruno Doucet, à lire. Et puis, alors, les éditions RS sont des éditions toulousaines.
Oui, oui, c'est ça.
Surtout d'ailleurs des éditions sur l'aspect sociologique, psychologique, et qui ont créé une collection de poésie qui est tout à fait étonnante et remarquable. Alors, ce sont des petits livres, c'est la poésie brève, hein, Daniel Faugiras, qui a traduit d'ailleurs les textes de Lorca. Toute l'œuvre poétique de Lorca a été traduite par Daniel Faugiras dans ses éditions, la RS Po et Psy, traduction véritablement très, très, très soignée, dans un petit livre, et qui fait paraître là. Nous avons parlé la semaine dernière de Kenneth Rexroth, les poèmes d'amour de Marie Chicot, de Malcolm de Chazal, qu'elle est allée dénicher de nouveau. C'est très curieux parce que j'avais lu Malcolm de Chazal peu de temps avant de recevoir Humour Rose, lors de Malcolm de Chazal, qui a été exhumé et publié par ses éditions, alors que je lisais La vie filtrée de Malcolm de Chazal. C'est coïncidence. J'en ai parlé, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Et puis là, qui continue sur quelque chose qui va certainement beaucoup t'intéresser, Manijay, ce sont les poèmes tamouls de l'époque Sangam. Ça aussi, il faut aller le dénicher. Alors, de quoi s'agit-il? Ben, j'ai appris beaucoup parce que j'ignorais totalement ceci. Alors, les historiens s'accordent à situer entre les années 200 avant Jésus-Christ et 300, voire 600 même avant Jésus-Christ de notre ère, l'émergence de la littérature tamoule, qui est liée à l'apparition de la grammaire. Vers le 1er siècle avant Jésus-Christ, les créations littéraires tamoules ont été compilées sous forme de 10 longs chants et 8 anthologies. Ce corpus de 18 ouvrages contient quelques 2381 poèmes écrits par environ 473 poètes, hommes et femmes. Il y a beaucoup de femmes dans ce recueil, beaucoup de femmes poètes à cette époque-là, qui est quand même assez exceptionnel, exerçant divers métiers et appartenant à différentes couches sociales, dont 102 restent anonymes. Alors, les poèmes qui sont publiés proviennent de 5 recueils faisant partie des 8 anthologies établies par la 3e Sangam. Alors, Sangam, ça veut dire académie. Et c'est, on est là dans le sud de l'Inde.
Oui, les originaux sont donc en Inde.
Voilà.
Les originaux sont en Inde. Oui.
Voilà. La poésie Sangam est peu connue du public français. Pourtant, elle témoigne d'une volonté de rassemblement, de sélection, de conservation et de diffusion de la littérature d'Inde du Sud, comparable à celle du Japon, qui quelques siècles plus tard a permis de transmettre le richissime corpus poétique des haïkus mondialement diffusé et remarqué. Alors, on est là toujours dans la philosophie de cette collection Po et Psy, hein, qui s'inspire de Freud, hein, parce que vous savez que Freud disait « Les écrivains sont de précieux alliés, il faut placer bien haut leurs témoignages. » Merci. On est d'accord là-dessus, hein, totalement. Car ils connaissent d'ordinaire une foule de choses entre le ciel et la terre dont notre sagesse d'école n'a pas encore la moindre idée. Ça, j'aime bien cette humilité chez Freud. Ils nous devancent beaucoup, bravo. Nous autres, hommes ordinaires, notamment en matière de psychologie, parce qu'ils puisent là à des sources que nous n'avons pas encore explorées par la science.
Voilà. Alors Freud, et donc, ça pourrait être un poète raté.
Oui, oui. Oui, c'est à psychanalyser. Voilà. Alors, donc, ce sont des textes, comme toujours, des textes très courts, hein, des textes brefs. Dans une présentation, dans une pochette, une présentation qui est très agréable, avec, qui plus est, alors, bilingue, c'est-à-dire que vraiment, on a transcrit là cette langue d'Inde du Sud, là, et donc ont été traduites par un professeur d'une université de Sorbonne, et avec des photographies de Daniel Faugeras, qui est également poète. Ça s'appelle « Comme la pluie qui tombe sur la terre rouge ». Très rapidement, alors, il faut que je retrouve ce que je voulais lire. Ah. Ni à la fête où s'assemblent les braves, ni à la tunangaï que dansent les femmes, nulle part je n'ai pu te voir, l'homme resplendissant. Je suis danseuse, le héros qui a fait tomber les bracelets de coquillages ciselés de mes bras languissants et danseurs lui aussi. Alors ça a été écrit par une poétesse, A.A. Di Mandi, et le tunangaï c'est le nom de la danse. Hein, voilà. Donc là déjà on voit qu'il y a un mouvement que l'on appellerait maintenant féministe hein, en œuvre. Paysage, mon ami, ce jeune chanteur est un étudiant. Combien grand doit être son talent sur la place publique de sa ville. Nourri d'aumône qu'il est, son teint est sans éclat, cet homme digne erre en quête d'un nouveau festin. Voilà, ça donne une idée de ces poèmes qui ont été donc publiés. C'est bien de les avoir exhumés, de les avoir publiés par notre éditeur toulousain RS, sous la conduite de Pascal Jeannot et de Daniel Faugeras. Voilà, j'en ai fini avec les annonces. Et si vous le voulez bien, je voudrais rendre hommage à un poète que j'aime beaucoup et qui vous aime beaucoup à tous les deux et qui s'appelle Franck Bardou. Franck Bardou, donc Gérard Zughetto, que vous connaissez bien, a mis en musique un des textes qui s'appelle « Desnos ». On l'écoute.
Traucote de sel e de tero, pastote d'arbre de sasù, so che in sera svende soqueros, de gioi per ella la rasù. Savo e savu de tut misteri, savo e savu de tut misteri. La fraba de tutto a baso, per la talenne la clartat, per la ossa forto t'accaso, contro la fera crisalità, che tu soldamo le guaraso, che tu soldamo le guaraso. Desnus tam laurasso, carancara tutso falsio, già che de tutso vantale un passo, come delle spadola sia, tre che d'orgoi la rimo passo, tre che d'orgoi la rimo passo. Esser che spasen da con noi, dal dintre detta dignità, dette va tutta morrava, già che sfonde tutta clarità, socca l'altre tu bro a ciamai, socca l'altre tu bro a ciamai, socca l'altre tu bro a ciamai. So cala o treto rojo.
Voilà, c'était Franck Bardou, donc chanté par Gérard Zughetto et Sandra Hurtado-Ross dans un très beau, très belle édition de Poète du Sud, Troba Vox, Chemin Tournant, dont nous reparlerons ici. Et je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, mais vraiment, je me lasse pas, c'est vraiment un travail d'extraordinaire qualité qui est fait. Donc vraiment, il faut rendre compte de ce travail de Gérard Zucchetto. Gérard Zucchetto qui sera notre invité le 2 et le 9 juin, ici à Radio Occitanie. Alors, Manigé, j'ai dit tout à l'heure que tu étais familière de Radio Occitanie, mais familière pourquoi ? Parce que tu es traductrice de la littérature persane depuis longtemps, que tu as eu d'ailleurs un prix pour récompenser cette œuvre de traduction, qui est une œuvre difficile. Tu es allé même chercher ce prix en Iran, dans un premier voyage. Et puis Alem, toi, tu es créateur, librettiste, poète, essayiste, romancier, traducteur, voilà à peu près. Bon, tu es l'auteur de plusieurs ouvrages, dont des essais sur la langue et la civilisation, la société. Des ouvrages également, alors de romans picaresques avec Mantroubat, et puis également de poésie et même de livrets, d'opéra en langue occitane, opéra qui avait été mis en musique par justement Gérard Zucchetto. Alors, tous deux, vous êtes partis dans un voyage d'une originalité qui me semble à moi absolue.
Et on est revenu.
Et vous êtes revenu. Mais bon, c'est le propre du voyage. C'est pas l'errance. C'est le voyage, c'est aller pour revenir et pour rapporter ce qu'on a entrevu autour de ce voyage et comment on va être modifié peut-être les autres. Vous êtes parti en Iran du 24 avril au 7 mai. Alors, pour un congrès, ce qui est assez extravagant, pour un congrès de neurologie. Mm-hmm. Alors, vous allez m'expliquer ce que l'un et l'autre vous faisiez et quelle est votre communication dans un congrès scientifique.
C'est parce que nous n'allions pas très bien.
Non, il faut ajouter de dire un congrès de neurologie et de la littérature. Parce que, en fait, le congrès, il est vrai qu'il y avait des neurologues qui venaient du monde entier, des États-Unis, de l'Angleterre et d'ailleurs, qui participaient en tant qu'intervenants dans ce congrès, mais tout le congrès était en fait basé sur les sept vallées de cette œuvre mystique persane du XIIe siècle, XIIIe siècle, que j'ai traduite deux fois en français, qui s'appelle « Le langage des oiseaux ». Et ces vallées, la dame qui, la neurologue qui était spécialiste de l'hypophyse à Téhéran et qui était responsable, disons, scientifique de ce congrès, disait que ces sept vallées correspondaient en fait aux sept glands du corps qui établissent l'équilibre du corps. C'est ainsi que c'est parti. Mais à l'origine, c'est une fondation Attar qui est aux États-Unis, mais qui est une fondation iranienne. Et leur but principal, c'est de voir comment l'art et le patrimoine historique agissent sur le cerveau. Et à ce propos, ils sont en train d'essayer d'élever, en fait, d'éduquer les jeunes gens pour voir quand on conjugue les deux, c'est-à-dire l'art et le patrimoine historique, notamment iranien, bien entendu, et comment ça peut donner d'autres êtres humains que ceux qui font seulement la science ou seulement les arts.
Oui, c'est un décloisonnement des sciences. Mais ce qui correspondait d'ailleurs aux grands scientifiques médiévaux, mais qui étaient aussi des grands poètes ou des philosophes ou des théologiens. En même temps.
Mais bien sûr, hein, bien sûr.
Dont Omar Khayyam, qui était un des plus grands mathématiciens, et en même temps un écrivain. En tout cas, ça va ensemble.
Oui. On commence à commencer par Avicenne. Avicenne, qui est né en 988 et qui est mort, malheureusement très jeune, en 1037. Ça veut dire début du 11e siècle. En fait, il est à la fois mystique, à la fois musicien et compositeur, parce que nous avons ses compositions, à la fois médecin, comme on le sait, avec son œuvre médicale, et tout cela, et à la fois poète, parce que son œuvre de médecine est en poésie, en fait, en persan, c'est en poésie. Et il faudrait, voilà, souvent on dit qu'il est Avicenne est arabe, mais son œuvre est en persan, en fait, et c'est un iranien. Voilà.
Oui, je pense au médecin de Cordoue aussi, qui avait...
Oui, Al-Bukassis, effectivement.
Et on dit que ce qu'on appelait avant l'honnête homme, c'est-à-dire qui rassemblait toutes ces sciences.
Voilà. Établir des connexions, entre
avec toutes ces connexions, aurait disparu du fait de la complexité énorme que les sciences ont amené, bien sûr, hein, que les découvertes scientifiques ont amené.
Dans la spécialisation, à outrance.
Voilà, là où spécialisation à outrance, aurait disparu avec Goethe. Et on dit que Goethe serait le dernier, peut-être, qui possédait à la fois...
une vue d'ensemble.
Une science des mathématiques, de la littérature, de tout ça en même temps. Mais qu'après lui, c'était impossible, du fait de l'extraordinaire complexité des choses.
Oui, mais aujourd'hui, on en a besoin.
Voilà, aujourd'hui, on retrouve ça.
Oui, peut-être en Occident, mais en tout cas, moi, même des exemples vivants iraniens, je peux vous en donner quelques-uns, notamment un professeur de médecine à Paris, qui est à la fois poète et à la fois fait beaucoup de recherches dans la littérature, poésie et art, et s'y connaît très bien, et écrit des ouvrages et tout le reste.
Alors que chez nous, ça peut paraître dilettante, que c'est quelque chose qui n'est pas sérieux.
Voilà, c'est ça. Un médecin qui ferait ça, voilà, si les poètes.
Oh là.
Bon, on a eu Laurent Gaspard.
Il faut qu'il choisisse.
Qui a été chirurgien. Oui. Mais c'est vrai que, que ce que tu dis, il paraîtrait suspect.
Oui, c'est suspect.
Même sans aller si loin, je me souviens de poètes juges, par exemple. Bon. Oui. Il fallait tout de suite qu'il explique que donc il faisait un ouvrage sur le divorce pour expliquer que bon il était quand même
sérieux et jugé. Au passage, ce médecin iranien, docteur Mirchali,
c'est Jean Follain, celui dont je parle, c'est quand même Jean Follain, donc un des grands poètes du XXe siècle qui a eu ce problème.
Docteur Mirchali, il est spécialiste du cancer, il est cancérologue, il vient ici à Oncopole et il a un laboratoire de cancérologie depuis 25 ans à Paris, mais en même temps, il est poète.
Alors,
donc nous avons proposé, nous avons présenté et l'Oncopole et la neurologie toulousaine, mais à la fin d'une intervention sur de la culture et de l'histoire, c'est-à-dire Toulouse-Khorasan. Ah oui. Voilà les liaisons qui peuvent exister culturellement, intellectuellement, entre Toulouse et là-bas, à 4000 kilomètres, ou je ne sais pas, le Khorasan, ce qui peut paraître tout à fait là aussi bizarre.
Mais ça peut paraître bizarre, mais ça, c'est grâce à Alem, depuis une quinzaine d'années que nous travaillons sur ce tandem, ce lien entre Toulouse et Khorasan. Et donc, en fait, le professeur qui nous avait invité, qui était à l'origine de notre départ et participation à ce congrès, est mon professeur qui est de Khorasan et qui avait accueilli cette idée que Alem vienne et que nous fassions une conférence ensemble pour montrer ces liens entre Toulouse et Khorasan, notamment. Moi, ce qui m'avait le plus impressionné à l'EM, c'est Arnaud de Villeneuve. Arnaud de Villeneuve, que je ne connaissais absolument pas.
Eh bien voilà, un médecin, philosophe, et ça c'est au XIIIe siècle, Arnaud de Villeneuve, de Montpellier, qui fréquente et qui connaît notamment la médecine de Al-Razi, Razès, donc qui est aussi du Khorasan, et qui, par Cordoue, connaît évidemment Al-Razi et va, en occitan, lancer le mot de Aigardent, l'eau ardente, l'eau de vie, Aigardent, ah, oui. À partir de l'utilisation de l'alcool préconisé par Al-Razi bien avant, pour soigner, pour les maladies, pour les blessures, pour etc. Oui, oui. Voilà.
Ah oui, c'est sur...
Voilà un autre lien.
Donc là, tu m'as appris l'origine de
l'ingrédient, l'eau ardente.
Oui, oui. Parce que alcool veut dire la totalité. C'est un mot arabe. Oui. Col veut dire la totalité. Al, c'est l'article. Oui. Donc alcool veut dire la totalité. A été découvert par Razi, enfin Razès, n'est-ce pas? Et donc Arnaud de Villeneuve s'en est servi. Oui. Comme ça, c'est extraordinaire. Et donc, je dois dire que dans la même continuité, en fait, le professeur Shafi Kadkani, qui est vraiment le grand savant iranien aujourd'hui pour la littérature, c'est-à-dire son mot concernant les éditions des ouvrages anciens, vraiment c'est le dernier mot, parce qu'il travaille 30 ans sur les œuvres, il est en même temps poète. Et donc, il dit la poésie, et sa poésie est engagée, elle est très aimé par les jeunes gens, et puis ça devient même des emblèmes dans la ville. Par exemple, il dit, nous avions une fille qui s'appelait La Joie, et elle est partie, elle a disparu, et nous la retrouvons pas. Et donc cette phrase est dans la bouche de tous les jeunes de l'Iran, et ce sont aussi ces étudiants qui vont, ils donnent deux heures de cours par semaine à l'université, et ils viennent là se mettre même par terre pour écouter ce que le professeur dit. Donc c'est encore un exemple d'un grand savant et en même temps un grand poète. Oui. Voilà.
Cette jeune fille était partie, nous l'avons ramenée de Toulouse. Oui. En fait.
Et c'est voilà. Ça. La joie, on l'a donnée.
Je reconnais votre subversion. Alors Monique, je crois qu'on va écouter un de ces poèmes.
Voilà, on va écouter. Après, je te demanderai éventuellement de le dire en français.
Oui, oui. On l'écoute d'abord. Hein?
On l'écoute d'abord, voilà, exactement.
C'était chanté par Salar Akhili. Tu peux nous en dire deux mots de ce
En fait, c'est un artiste aujourd'hui très connu en Iran, un chanteur avec une très belle voix qui est engagé, c'est-à-dire qu'il interprète dans la musique traditionnelle persane, mais il a, comme tous les solistes, il se permet de faire des variantes et son travail est très très apprécié. Il vient à Paris aussi donner des concerts et ailleurs dans le monde, et donc le groupe qui a composé, en fait, il y a un compositeur, Hamid Montebassem, et le groupe s'appelle le groupe Dastan, qui a joué pour mettre en valeur la poésie de M. Shafi Kadkani.
Alors les paroles, je vais donner les paroles en français. Hein, que l'on
en partie, oui.
Ouais, en partie,
oui,
bien sûr.
Oui,
hein. Oui. Le chant du matin. L'aube est arrivée, lève-toi, c'est le chant du coq qui l'annonce. Laisse le sommeil et la fatigue, jette-les dans la rivière de la nuit. Appelle une nouvelle fois, les enivrés de minuit, les assoiffés clairvoyants dans les ruelles. Brise le sommeil des poètes, avec le cri des poètes.
Brise, brise le...
Brise le sommeil des... Ah non, des petites portes, pardon.
Oui, oui. Voilà. Brise des
brise,
petites
brise
portes.
Brise le sommeil des petites portes avec le cri de la prière. Une nouvelle fois, œuvre, ouvre les portails de la nuit sur la blancheur du matin. Pousse, le coq dit, pousse le cri de la passion et joie, invite le chaud des amoureux, le chant des amoureux dans les ruelles de la ville.
Voilà, c'est tout. Alors c'est cette partie-là, voilà. Évidemment qu'en persan c'est autrement, comme on a pu l'entendre, mais voilà.
Oui. Je voulais signaler que lors de ce voyage inédit et inouï, pour cette conférence que nous avons donnée, l'accueil a été tellement superbe pour nous, parce que la population a pu voir qu'à Toulouse, là-bas, de l'autre côté, de vers l'ouest, il y a des gens qui parlaient du Khorasan et qu'on connaissait le Khorasan. Donc ça a eu une incidence tout à fait heureuse. C'est que le gouverneur de la ville de Nishapur, qui est la ville de Atta, du poète Atta, et aussi de Omar Khayyam, a décidé de nous proposer, sur le champ, une convention entre la ville de Nishapur et la ville de Toulouse. Donc nous sommes revenus avec des feuilles précieuses pour la mairie de Toulouse. Voilà.
Voilà, porteur d'un projet impliquant donc la ville de Toulouse et un rapprochement donc de ces deux capitales de poésie.
De poésie.
Même,
hein, oui, c'est là où elles se retrouvent.
Elles se rencontrent.
Voilà. Et maintenant, moi, je voudrais lire un des poèmes de Alem, parce que nous avons préparé ensemble un recueil de poèmes, de 30 poèmes de Alem en 5 chapitres. Et ce recueil est en 3 langues. En occitan, bien sûr, la langue d'origine des poèmes de Alem, et puis en français, et puis en persan. En persan. Et donc, je voudrais lire un de ces poèmes de ce recueil, qui n'est pas encore d'ailleurs publié, mais ça ne va pas tarder. نیایش جان سپرده به هنگام پراکندن خاکسترهایش. من آن زورقم که تو را به سوی من آورد و نمکی که روی لبان خواب آلودت نشسته بود. من مرهم زخم‌های تو هم و ادویه‌ای خوش برای طعم غذایت. من آن باد بلندم که صحرا را می رو باید در گرد خاکی نامرئی. من آن پرنده سرخم که به سوی آفریقا پر می کشد. به نزدیک من بیا. من کانال آبهای متجسمم. من سپید دم شگفتانگیز و شفق پرده درم. جزیره ثابتی که دریا خود را از آن پس می نشیند. علم، من فهرستی ناباورم از تمام آنچه با هم بافته بودیم. من هیجان نهان خوابهای تو هم. بشنو از من ندای دعایم را از آن سوی رودخانه به سوی اسپانیا. علم من آنم که به او دل سپرده ای، آن که در درون توست. آنچه که تو می آفرینی مرا آرام آرام آزاد می کند. من تقسیم دقیق تنهایی هایم. علم مرا بیفشان، اکنون من خاک راه تو هم. علم عشق زیبای من، آرزویم همه این است که از این پس هر گام که برمیداری مرا چون بافه نور از زمین بلند کنی.
سوی la barca che io temeno e la sal sta potta sumida. Sui l'esturnigo che mai slumal e la rumo che narto lo repais, sui l'auto che beu l'erm e insai pas cantos neplos de pusco, sui l'uflau purpuri en cami d'Africa. Sarote. Sui lo grau de las aigos inversos, sui l'albo suspreso lo calabrun saraire, sui l'isclo immutaplo che la mar se naluegna, alem, sui l'impossibile tiero del nostre teise e l'uzzoi amaga del teusomi. Per l'altro ribo capa l'espagno primiero lo resun detta pligario meun, alem, sui socaimos e che te cabis, so che trobos e da passet me desliuro, sui la partisu requisto della suleso, alem scampilio me, aro sui pusco pel teucami. Alem pulita murmeu, carden la en garbos de lus, cado pasteu menarte.
Voilà, alors j'écoutais pour ma part ce poème pour la première fois au théâtre du Pavé.
Ah oui.
Mmh. Voilà, c'était une prière de la défunte pour la dispersion de ses cendres. Ça a été écrit en hommage à Françoise Meruels, qui est ta compagne, mmh. Alem. Et ce poème fait partie du livre Dels Rituals, donc qui a été mis en musique, hein, par Bertrand Dudebout et créé à l'Auditorium des Cuisines à Toulouse en 2007. Prière de la défunte pour la dispersion de ses cendres. Je suis la barque qui t'a porté vers moi et le sel sur tes lèvres endormies. Je suis l'arnica pour tes blessures et l'arôme qui rehausse ton plat. Je suis le haut vent qui absorbe le désert en invisible brume de poussière. Je suis l'oiseau pourpre en route vers l'Afrique. Approche-toi. Je suis le chenal aux yeux contraires. Je suis l'aube surprise et le crépuscule bavard. Je suis l'île immuable d'où se retire la mer. Alem. Je suis l'impossible répertoire de nos tissages. Je suis la secrète
exaltation de ton rêve. Écoute, sur l'autre rive, vers l'Espagne première, l'écho de ma prière. Alem, je suis ce que tu aimes, ce qui te contient, ce que tu inventes et qui, lentement, me libère. Je suis l'exact partage des solitudes. Alem, disperse-moi. Me voici poussière sur ton chemin. Alem, mon bel amour, que désormais chacun de tes pas me soulève en gerbe de lumière.
Maintenant, je voudrais lire le début d'un poème de Monsieur Shafii Kadkani, et que nous allons par la suite entendre en chant avec Salar Arili. ترانه دیباچه بخوان بخوان به نام گل سرخ در سحاری شب که باغ‌ها همه بیدار و بارور گردند بخوان دوباره بخوان تا کبوتران سپید به آشیانه خونین دوباره برگردند
sur Nishabur, cette ville où, donc, où nous avons fait notre intervention, la conférence Diaporama. Ce qui est tout à fait important, c'est que Nishabur, qui n'est pas la plus grande ville du Khorasan aujourd'hui, hein, mais qui est certainement, hein, tu me diras, Manijé, la capitale culturelle et poétique, et même pour l'ensemble de l'Iran, avec Shiraz. Hein, oui, je pense que c'est les deux villes. Donc pour Toulouse, qui se veut un peu la capitale de la poésie, poésie, c'est important d'avoir tissé ces liens. Et donc, il y a deux grands poètes, évidemment, qui sont connus dans le monde entier. D'une part, Omar Khayyam, qui n'est pas que poète, donc, et Ator. Donc, Manegis, tu peux nous donner peut-être sur voilà. chacun des deux une
juste quelques mots. Omar Khayyam, mathématicien, algébriste, physicien et donc astronome surtout, et de 10e siècle, et donc c'est lui qui a changé le calendrier persan, qui a innové le calendrier persan donc à son époque, et qui au passage, si j'ose dire, écrivait les quatrains pour lui et pour ses proches, et ces quatrains qui avaient été traduits au 19e siècle par Edward Fitzgerald en anglais, qui ont eu beaucoup d'influence et d'accueil en Europe, parce que tout simplement en français on a à peu près 18 traductions différentes des quatrains de Omar Khayyam. Et donc ça c'est 10e siècle, et ensuite au 12e siècle, début 13e siècle, nous avons le grand poète mystique persan qui est Fariduddin Ator, avec 6 œuvres, toujours en poésie, toujours des œuvres didactiques, mais en poésie, symbolique, comme les récits comme les contes en fait, n'est-ce pas, mais qui dans le fond porte la philosophie néoplatonicienne et puis l'expérience mystique. Et l'une de ses œuvres, c'est Le langage des oiseaux ou La conférence des oiseaux, qui justement c'est cette vallée qui ont servi pour ce congrès. Et puis cette œuvre de Ator a été traduite en 24 langues du monde, en indonésien, en chinois, en japonais, et puis toutes les langues d'Europe, et voilà.
Et nous l'avons présenté à Toulouse.
Et oui,
avec de l'occitan aussi à l'intérieur.
Et oui, bien sûr. Et puis voilà, j'avais fait un séminaire une année à l'Institut catholique de Toulouse, et notre poète occitan Franck Bardou a été inspiré, a écrit 2 volumes de poèmes prenant le modèle du langage des oiseaux et des poèmes en occitan, et voilà.
C'est pour ça que ça me paraissait important de faire cette conférence en occitan, et j'ai présenté, vous l'entendrez, dans la langue historique de Toulouse, ce qui était évident, mais bien sûr c'était traduit en persan et en anglais par la suite, mais c'était un signe important pour ces relations qui, quoique ténues, sont quand même très importantes et pas assez connues. Et c'est vrai que, par exemple, Benedetto, que tout le monde connaît ici, avait écrit en 2001 à Avignon une petite pièce qui s'appelle Le cabaret Omar Khayyam, mais avant, et tu sais comment il voulait appeler le texte, c'est Les roses bleues de Nishabur.
Ah oui.
Ah, c'est intéressant. Et c'est une histoire de cabaret, avec Omar Khayyam, mais il fait intervenir Guillaume IX d'Aquitaine, qui va discuter avec Majnun à l'intérieur, donc sur la condition de féminine. C'est assez drôle. Mais il faut dire que Omar Khayyam avait inspiré une poétesse qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, une poétesse occitane qui s'appelle Kaleliou, dans les années 1930, et qui a eu justement un déclic par rapport à ce que tu disais, Manegis, c'est-à-dire sur la traduction de Fitzgerald, notamment. Et elle a travaillé en occitan, et son recueil de poèmes s'appelle « Réclames à Omar Khayyam », c'est-à-dire « Écho à la poésie d'Omar Khayyam ». Et elle s'est sentie complètement concernée. Alors ça, j'essaie de retrouver tous ces textes. Et puis pour Ator, notamment, bien sûr, on vient de parler de Franck Bardou, mais notre grande référence, et qui est peu connue, même là, des Occitans, c'est Antonin Perbosque. Antonin Perbosque connaissait, parce qu'il devait y avoir une tradition à cette époque-là, connaissait donc la conférence des oiseaux, on est au début du XXe siècle, et il a écrit 3 poèmes en hommage, justement, à cette conférence. Je peux dire simplement un premier quatrain. Dilus buscaces deliran, bulbul rossignol, aimabo gul, la rosa del gulistan, acosperello che cantavo. Dans les bocages de l'Iran, bulbul rossignol, aimé la rose gul et bulbul, sont tous deux les compagnons du printemps, etc. Donc c'est un hommage, et il y a 3 textes magnifiques sur le roi des oiseaux, hein, qui est vraiment, oui, qui est en rapport avec cette œuvre de Attar. Voilà. Et mais on découvre à chaque fois des choses comme ça, et pour nous, c'était assez exaltant de montrer que c'est pas la distance qui compte, c'est la réception de l'un et de l'autre. De poésie. Et les troubadours, c'est vrai, représentent pour nous les meilleurs ambassadeurs du monde.
Oui.
Oui, oui. Et donc, là-bas, en fait, c'est vrai, comme dit Alem, nous avons eu un très grand accueil. Oui. Très grand accueil. Et dans le public, et aussi par les organisateurs, oui. Et notamment les personnes qui étaient responsables, voilà, de la ville, et les, aussi nos poètes calligraphes,
oui,
n'est-ce
poète
pas,
chanteurs,
que nous avons vu, ouais. Bijan et Bijani, que ouais. nous avons vu à Téhéran, le grand chanteur Shahram Nanzeri, qui est le Pavarotti, on va dire, de l'Iran, et qui, nous l'avons ouais. pris en photo avec Alem, ouais. Et donc, dans l'ensemble, il y a un accueil formidable parce que les gens comprennent
oui.
Ces liens oui. entre Toulouse et, oui. et Khorasan. Oui.
Et j'ai eu je te l'ai dit, Katana, oui. et même toi, je crois que tu as eu on ne s'y attendait pas non plus. C'est ça les voyages, qu'on ne prévoit pas tout. Hein. Et c'est qu'à Ispahan, on a pu entrer dans un temple zoroastrien.
Oui.
Et ça... qui était donc la religion des Sassanides oui, avant l'islam. Et donc il y a encore, peut-être, après ce qu'on me dit, une centaine de mille de gens qui pratiquent le zoroastrisme. Oui. Et on a écouté, on a pu entendre, on était très peu, un prêtre zoroastrien nous parler de tout ça. Et là, j'ai eu comme tout d'un coup des frissons parce que j'étais renvoyé, je me suis senti cathare.
Ah oui, oui.
Ouais. Ça m'a renvoyé à quelque chose.
C'est extraordinaire.
Ah, oui. Et oui, parce que tu sais, c'est la route de la soie, ça. Hein, par les Balkans, après ça continue, et puis ça arrive à Toulouse. Hein. Donc il y a plein de subtilités sur l'ombre et la lumière. Tout ça, c'est passionnant.
Et vous avez ravivé le passé, là.
Ah oui, complètement. Et tout en...
Ce qui veut dire que ce passé est toujours vivace.
Oui, et l'Iran est en train de le restaurer.
Oui, l'Iran est en train de le restaurer de toutes les façons. De toutes les façons.
Et d'avant l'islam.
Absolument.
Islam compris, bien sûr. Mais de Persépolis jusqu'à... Jusqu'au, justement, aux Sassanides et tout ça. Tout ça.
Oui.
Parce que c'est normal, et les Iraniens, même toi tu le dis avec plaisir, c'est que il y a 4000 ans d'histoire derrière, hein, donc c'est au cœur d'un carrefour extraordinaire, hein, entre l'Inde, la Chine, l'Asie centrale, la Mésopotamie, je veux dire que.
qu'on appelle le plateau iranien, c'est-à-dire le plateau iranien qui était très vaste en fait à l'époque, et maintenant il y a toutes ces influences du passé qui jaillissent à travers les personnes, et bon, ils aiment leur culture, ils aiment la poésie, la littérature, et donc
et la médecine.
Et la médecine, bien sûr.
Parce que ça arrive à Montpellier, de là-bas, du Khorasan, par Bagdad et par Cordoue et par Saragosse. Voilà.
Oui,
il y a des logiques.
Voilà. Et on est là, tout à fait, Alem, dans les orientations.
Ah oui, complètement. C'est-à-dire, la capacité.
Vous avez fait de l'exercice pratique.
Oui, c'est un pratique de ce que j'essaye toujours de dire, comme l'autre jour à la conférence entre l'Occitanie et le Tibet. Oui. Ce sont des connexions, et la culture ne peut pas vivre sans connexion. Sinon, ce n'est qu'une simple consommation, et c'est pas intéressant. Hein. C'est pas
intéressant. Et puis.
Et elle progresse comme ça aussi.
Ah oui, bien sûr. Quelquefois par des fils très ténus. Si le fil ténu se rompt, c'est que bon, ça ne fonctionne pas.
Oui.
Mais s'il fait écho à autre chose, alors il faut exploiter ce fil. Et on fait un tapis, après.
Magnifique. Oui, après on fait un tapis. Et puis moi, mon but, c'était en fait, en proposant à Alem de partir avec lui en Iran, c'est que ces liens entre l'Occitanie et Khorasan ne restent pas seulement en Occident.
Voilà.
Qu'on aille voir sur place, qu'il puisse voir, entendre la langue, et bon, l'accompagnant pour aussi en espace de 14 jours.
De peinture.
Voilà, c'est ça. Nous avons vu quand même 7 villes. Nous avons parcouru 4000 kilomètres, et nous avons vu les montagnes de l'Iran. Et tout cela, c'est important. Et les déserts. C'est important de le voir en vrai.
Dans la population, sentir un peu la population. Qu'est-ce qui bouge ou pas? Qu'est-ce qui est sensible?
Voilà, exactement.
Ça a été passionnant.
Et savoir que ce n'est pas seulement une théorie ou un rêve, c'est que ce Khorasan existe.
Ouais.
Et les les gens de Khorasan et de Neshavur et de Mashhad existent et ils sont intéressés pour cet échange culturel entre ici Toulouse et eux. Comme ils l'ont bien, bien exprimé. Oui.
Et sans oublier notre précurseur au niveau des voyages, c'est Roland Pécou avec Portulane, qui dans les années 70-80 avait fait ce voyage, notamment, alors il parle pas trop du Khorasan, bien qu'il l'ait traversé, mais il parle du grand Khorasan sans le savoir, puisqu'il parle de, beaucoup de Herat. Ah, or, la ville d'Herat, si oui. Il faisait partie du grand Khorasan.
Mais bien sûr, voilà. ça fait partie encore du grand Khorasan.
Donc là, il y a des pages
Khorasan.
Magnifiques sur les déserts.
Ouais, oui. Rappelez-nous, c'est Ventéral qui a
réédité. Ça, c'est un classique. Oui. C'est un classique.
Eh bien, écoutez, merci à vous deux. Espérons que tout ceci, bien entendu, va se traduire par le succès de ce projet dont vous êtes porteur, de cette initiative fabuleuse qui a été la vôtre. On va rappeler Manijé, tes ouvrages. Que tu as traduit.
Donc, il y en a quatre, en fait. Cœur et beauté ou le livre des amoureux, ça c'est de Fatoy et Neshabour. Ensuite, le sens de l'amour chez Rumi, en bilingue, persan et français. Et donc, les poèmes de Rumi. Ensuite, la conférence des oiseaux que nous avons élaborée avec Henri Gougaud. Il a fait une adaptation, donc, en français aux éditions du Seuil. Et puis, le langage des oiseaux aux éditions du Cerf, le dernier,
qui a obtenu un prix mondial.
Voilà.
De traduction.
Et là, je suis sur je suis en train de traduire une autre œuvre de Hathor, qui est le Mémorial des Saints, qui n'a jamais été traduit du persan en français. Et nous attendons justement l'édition de Monsieur Shafi Katkani, et ça va bientôt commencer.
Très bien. Voilà, Alem. Tu donnes une de tes conférences
demain.
Le 1er juin.
Il y a le 1er juin, ouais, oui. Et une demain à la Casa d'Espagne sur l'art gothique occitan et l'art mudéjar. Demain à 18h30 à la Casa d'Espagne de Castres.
Alex Garcia à la Casa d'Espagne.
Et le 1er juin, bien sûr, sur Comines.
Et le jeudi 1er juin.
C'est un mercredi.
À 18h, c'est ça?
À 18h30 à la Maison d'Occitanie.
À la Maison d'Occitanie, 11 rue Malcousinat. À Toulouse, donc conférence d'Alain Monsieur Garcia pour une grande fête qu'organise la Maison de l'Occitanie ce jour-là, qui sera suivi d'apéritifs, de musique,
de chorales.
Et les Orients d'Occitanie à Tulle. Parce que la mairie de Tulle organise la semaine prochaine.
Il sera Tulle la semaine prochaine sur les horaires de... Il n'arrête pas, c'est un régal. Voilà. Merci beaucoup à vous deux et à très bientôt.
Al-Kopkeven.
Merci à toi, Christian.
Et Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée d'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine. Adichas.